Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie Zone, épisode 58, troisième saison de ce lundi 20 juin, en compagnie des gars de la presse, évidemment, Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Nous avons directement de Tampa Bay, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
Salut JR.
Nous avons Stéphane Roy du 98.5. Salut Steph.
Bon après-midi, les gars.
Bon, messieurs, si vous me le permettez, allons faire un rapport de la situation du côté de Tampa Bay. Guillaume, raconte-moi, après cette varlope de 7-0, est-ce qu'on a un petit brin d'espoir encore du côté du Lightning de Tampa Bay?
Ben oui, parce que c'est une équipe qui a quand même de l'expérience, qui en a vécu d'autres, et les joueurs aiment le rappeler, même si ça finit 7-0 au dernier match, la série c'est quand même 2-0, c'était pas une victoire contre double, même si ça a été gagné par un toucher. Donc c'est le message qu'on se dit. Cela dit, je vois la même chose que tout le monde voit, c'est-à-dire que l'Avalanche est vraiment dans une classe à part jusqu'ici dans cette série-là, et bon, particulièrement dans le match de samedi. Petit élément d'information intéressant ce matin, c'est l'absence de Braden Point à l'entraînement et le fait qu'il soit un cas incertain pour le troisième match lundi soir. Alors ça, dis, bon, on sait que Point est revenu au jeu après un mois d'absence pour le début de la finale. Il n'a pas été un grand facteur dans les deux premiers matchs. Alors est-ce qu'il jouait, est-ce qu'il tentait de jouer, est-ce qu'il est revenu trop vite ou est-ce qu'il tentait de jouer en dépit d'une blessure? Ça va être à surveiller. L'autre sur qui je me pose des questions, c'est Nikita Kucherov. J'ai pas de raison de croire qu'il est blessé. J'ai pas vu de séquence ou rien où il a semblé se blesser, mais j'ai jamais vu un joueur d'un aussi grand talent être aussi invisible que ce qui a été dans le deuxième match samedi. C'est même en regardant les statistiques du match que j'ai fait comme, oh oui, c'est vrai, il jouait, lui, Kucherov. Parce que, écoute, pas de tir, pas de mise en échec, pas de tentative de tir, pas de tir, alors c'est rien, zéro, puis une barre. Donc, lui, j'ai hâte de voir comment il va rebondir aussi, parce que ça va être essentiel au succès du Lightning.
Messieurs, un petit salut spécial particulier à un des auditeurs qui dit, ouais, le dernier balado a mal vieilli parce qu'on parlait du Lightning de Tampa Bay comme d'une dynastie. Philippe, ça joue pas comme une dynastie, le Lightning présent.
Non, mais quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit, coudonc, personne me l'a dit, puis la série est terminée. Je savais pas. Moi, je pensais que ça continuait. Alors, la série est pas finie. Je rappelle cette grande vérité émise par Yogi Berra, ce n'est pas fini.
Tant que c'est pas fini.
Voilà, puis ça demeure vrai dans le sport. Cela dit, il faut regarder la situation en face. Ça va être très, très difficile pour le Lightning. Là, ils ont énormément de pression les deux prochains matchs. Il faut qu'ils gagnent les deux suivants, c'est clair. Par contre, ils en sont capables, je pense. C'est une équipe aguerrie. Il va falloir, les points que sont soulevés par Guillaume sont tout à fait véridiques. Il va falloir que Kucherov joue beaucoup mieux. Mais tu sais, la dernière fois, j'avais fait une comparaison avec un championnat du monde des poids lourds, mm-hmm. Tu sais, puis que pour battre le champion, faut que tu le knock out. Là, ça me fait penser un peu, je vais continuer dans mes analogies de boxe, ça me tente, mais le fameux Ali Foreman, mm-hmm. 74, vous vous souvenez, Foreman commence et frappe Ali dans les câbles pendant 6 rondes. Il est comme sûr qu'on est sûr qu'il
là,
va
c'est
gagner.
C'est le fameux rope-a-dope.
Ouais, le fameux rope-a-dope. Mohamed Ali en caisse. Puis là, tout à coup, il sort des câbles puis il va gagner le combat. Alors, est-ce que le Lightning de Tampa Bay va être capable de faire la même chose? Moi, je crois que oui, qu'ils en ont encore le potentiel, mais c'est sûr que ça passe ou ça casse ce soir.
Stéphane, dis-moi donc, qu'est-ce que Tampa Bay doit changer pour espérer compétitionner contre l'Avalanche?
Ben, écoute, premièrement, encore une fois, on a parlé des autres séries avant aussi, avec Tampa Bay, New York, puis les Rangers contre Caroline. Tant que t'as pas perdu un match chez vous encore, t'es pas dans le trouble. Et puis Tampa Bay revient chez eux. Moi, j'ai trouvé Tampa Bay très lent. Je sais pas si c'est Colorado qui était trop vite ou c'est Tampa Bay qui était lent. J'ai comme l'impression que l'altitude ils ont eu de la difficulté avec ça. Je regarde, j'ai pris des notes. Stamkos, Kucherov, Perry, Maroon, McDonough, Bogosian, même Alex Killorn. C'est tous des gars que je trouve qu'ils avancent pas dans les deux premières parties. Sauf que, écoute, Vasilevskiy a été très moyen dans la plupart des deux matchs de toutes les séries à date, les deux premiers matchs de chaque série qu'ils ont joué. Et puis, il a tout le temps retrouvé le moyen de rebondir quand son équipe pouvait être dans le trouble. Il l'a très bien fait contre Toronto. Il l'a super bien fait aussi contre les Rangers. Je m'attends à un Vasilevskiy qui va rebondir. Je pense qu'il était piqué dans son orgueil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il faut changer? Je rejoins un petit peu Guillaume. Il faut que les meilleurs soient les meilleurs. Puis Kucherov, en ce moment, on ne l'a pas vu. Stamkos ne l'a pas vu beaucoup. Donc, ces gars-là, il faut qu'ils en donnent un petit peu plus. C'est inquiétant au niveau de Braden Point, mais il n'était pas là dans les autres séries. Donc, moi, ils ne sont pas battus encore. Comme je reviens encore à mon fameux chose, quand tu n'as pas perdu chez vous, t'es pas dans le trouble.
OK, on prend ça en note et on pourra savoir au courant de la
tout
semaine.
Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a un qui est dans le trouble dans notre podcast, c'est JR avec lui, sa prédiction. prédiction est finie.
Garde-les, le mal commode qui ramène ça pendant que je voulais m'en sauver en douce.
Alors, on va faire jouer l'extrait sonore du dernier podcast.
Bon, moi, je m'en vais. Non, mais j'avais dit Tampa Bay en 5. Fait que donc, oui, t'as raison.
En 5.
Donc, oui, t'as raison, Stéphane. Ma prédiction n'est plus efficace présentement. Je veux juste savoir une chose, puis je vais y aller avec Guillaume. Une chose que Tampa Bay fait présentement et que ça tue l'équipe, c'est le nombre de 2-1 qu'on donne. Écoute, c'est incroyable. On rentre dans le territoire du Lightning à pleine vitesse du côté du Colorado et on est toujours en surnombre du côté du Colorado. Il faudra trouver une façon, Guillaume, de freiner un peu la rapidité de l'avalanche du Colorado. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, si vous avez trouvé des solutions puis vous voulez donner ça à John Cooper, mais clairement, il faut ralentir l'avalanche du Colorado.
C'est clair, puis c'est parce que ça part vraiment en défense. Je veux dire, oui, Kelmaker, Bowen Byram, c'est clair, c'est leur qualité première à la relance. Devin Taves, on n'en parle pas parce que c'est le partner justement de Makar, mais c'est un super défenseur en relance aussi. Puis même Josh Manson, vous avez vu le but qu'a marqué Josh Manson dans le match samedi, justement. C'est un gars qui est quand même qui est capable. Puis John Cooper n'avait même parlé avant même son but. John Cooper lui-même n'avait parlé quand tu parlais de la défense de l'avalanche. Puis tu sais, même un gars comme Manson est capable de relancer l'attaque, une bonne relance, tout ça. Donc, ça, c'est une des choses. Puis, l'autre chose, c'est que je ne compte plus le nombre de séquences où j'ai vu, et c'est souvent McKinnon qui le fait, mais d'autres joueurs aussi, mais vraiment des attaquants de l'avalanche, là, partir de la zone défensive et vraiment prendre leur élan, là, tu sais, arriver vraiment à pleine vitesse là, en zone neutre. Donc, tu sais, ça, c'est il y a clairement un problème d'échec avant là, chez le Lightning qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de tuer la vitesse de l'avalanche à la base là, en zone défensive. Et ce qui fait en sorte que ça devient carrément une autoroute en zone neutre. Ça, c'est effectivement un des gros problèmes qu'on observe jusqu'ici. Qui fait mal au Lightning. Moi, l'autre chose que je remarque aussi beaucoup, et ça, tu sais, regarde, c'est-tu, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Je sais pas, on peut avoir un débat philosophique, mais le Lightning a vraiment l'air d'une équipe qui essaie très, 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 très fort de déranger l'avalanche et de déranger Darcy Kuemper. Et on dirait que c'est comme pas l'identité du Lightning nécessairement d'être ça. Donc, tu sais, est-ce que justement le Lightning se tire dans le pied en faisant ça, ou c'est plutôt parce que le Lightning se fait dominer? Ben, on essaie quelque chose, donc on essaie d'aller déranger Kuemper un peu pour provoquer quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi.
Ah, bon
ben,
point.
C'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que je lisais des commentaires de John Cooper qui disait peut-être qu'on s'est un peu trop occupé de l'avalanche. Même moi, comme coach, j'ai trop voulu trouver les moyens de contrer l'avalanche, puis on en a oublié notre propre jeu dans tout ça. Une grande équipe comme le Lightning de Tampa Bay, c'est eux qui doivent dicter le jeu. C'est à l'avalanche de prouver qu'ils peuvent s'adapter. Puis là, j'ai l'impression qu'ils ont laissé une petite ouverture à l'avalanche, qui est manifestement une très solide équipe, là, et qui en a profité. Mais le Lightning doit revenir à son style. C'est de provoquer des choses en attaque. Ils sont extrêmement créatifs, extrêmement imaginatifs. Il faut voir qu'ils se fassent confiance, qu'ils pensent peut-être un peu moins à stopper les autres, puis penser là, dans une première étape comment eux peuvent redémarrer la machine, parce que c'est ça là, qui est essentiel. On parlait de Kucherov tantôt, il faut qu'ils débloquent, il faut que les Stamkos, il faut que ces gars-là débloquent. Alors pensez d'abord à votre jeu, vous penserez à celui des autres après.
Mais ouais. Stéphane, juste savoir, est-ce que c'est la première fois selon toi que l'Avalanche est confrontée, peut-être, pas l'Avalanche, mais le Lightning de Tampa Bay confronté à un club meilleur que lui? Parce que tu as eu Dallas en finale de la Coupe Stanley, tu as eu le Canadien de Montréal.
Ouais.
Là, Colorado, c'est pas la même dynamique.
Il n'y a aucun doute que c'est un club de loin supérieur à ce que Tampa a affronté dans les deux dernières finales de la Coupe Stanley. Aucun doute là-dessus, c'est un très bon point. Sauf que, encore une fois, j'ai Ils vont faire des ajustements. C'est certain qu'ils vont faire des ajustements. On parlait de deux échecs avant dans leur zone offensive. Je suis très d'accord avec ça. Puis même dans l'échec en zone neutre, tu peux pas laisser cette équipe-là là, prendre de la rapidité dans la zone neutre comme ils font là. C'est un très, très, très beau point que Guillaume a apporté. Mais oui, c'est certain que c'est de loin le meilleur club qu'ils ont affronté dans les deux dernières finales de la Coupe Stanley, dans les trois dernières, excuse. Et puis, mais écoute, moi là, si je suis Colorado, là, je me dis en fait, je suis encore nerveux. Je suis encore nerveux dans le sens que ils peuvent pas faire l'erreur que les Rangers ont faite de pas. Parce que là, ils ont un genou au plancher. Là. On parle de boxe tantôt. Là. Ils ont un genou au plancher. Là, faut qu'ils, là ça prend l'instinct du tueur. Si tu laisses cette équipe-là revenir 2-2 dans cette série-là, ben, je vais te dire une affaire avec un Vasilevskiy qui va juste être meilleur de match en match. Là, tu vas jouer avec le feu.
OK. Donc, on prend ça en note. Ça, c'est intéressant. C'est le moment de fermer la série, de s'assurer de gagner cette série-là avec cette victoire qu'on désire du côté du Colorado dans le match 3. Écoute, je fais un tour de table rapide. Guillaume, est-ce que c'est possible que le Colorado soit meilleur?
Non. Non. je vois vraiment pas comment. C'est une équipe qui est tellement, je pourrais dire ça, en symbiose en ce moment. Vraiment, tu sais, moi, le seul élément de faiblesse que je vois et qui pourrait tout venir déstabiliser, c'est Darcy Kemper devant le filet. C'est vraiment, c'est pas une faiblesse en ce moment, mais je dirais que s'il y a un endroit où cette équipe-là peut peut-être, je veux pas dire casser, mais disons fléchir un petit peu, c'est là, c'est devant le filet. Darcy Kemper, bon, lui-même également revient d'une blessure, on manque un petit peu de temps. C'est pas, ça demeure vrai même après deux matchs, même après l'allure des deux premiers matchs, c'est pas un gardien quand même du même calibre que Vasilevskiy. C'est un bon gardien, mais pas un gardien parfait, qui peut avoir là, des fois c'est des périodes un petit peu plus difficiles. Donc c'est vraiment la seule place, mais pour le moment, regardez, là, au dernier match, j'ai eu 16 tirs Kemper, puis il y a peut-être eu deux tirs dangereux là-dessus. Mmh. Donc, tant qu'on ne teste pas plus que ça, bon, on ne saura pas si ça peut être une faiblesse pour l'Avalanche, mais c'est vraiment le seul endroit d'où je vois que l'Avalanche peut craquer un petit peu puis donner une chance au Lightning de revenir.
Bien, attends, je vais aller voir Stéphane immédiatement. Philippe, je vais t'entendre juste après. Stéphane, ta réaction là-dessus, c'est peut-être pour ça que Corey Perry a décidé d'aller sur Kemper un peu pour tenter de le déranger?
Ouais, mais dérangé, mais ils n'ont pas eu d'action, ils n'ont pas eu de ce qu'on appelle en anglais end zone possession. Tu sais, ils ont seulement 17 lancés, je pense, le dernier match. Donc, tu déranges un gardien de but quand ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions pour le déranger. Puis moi, Darcy Kemper, en ce moment, là, ce qui est dangereux pour Tampa, c'est que j'ai justement, là, il y a la vie facile depuis deux matchs, spécialement match 2. Puis ça, là, c'est juste ce que ça prend pour prendre confiance petit à petit. Après un retour au jeu, il a manqué une dizaine de jours Darcy Kemper minimum. Et puis ça, là, c'est la formule parfaite pour que ce gars-là, là, prenne confiance. Pour un moment donné, mec, Tampa attaque ou offre beaucoup plus de temps de possession en zone offensive. Ben là, Kemper, je pense qu'il peut faire un très bon travail. C'est le genre de gardien de but. C'est le genre de gardien de but qui peut te gagner une Coupe Stanley. Pas lui tout seul, mais je veux dire, il peut juste faire une bonne job. Moi, j'ai tout le temps aimé ce gardien de but-là. Il y a pas des bonnes séries à date, mais jusqu'à date, on peut pas rien lui reprocher. Et puis, il peut être dangereux plus que ça va, plus que la série allonge, plus que Darcy Kemper, pour moi, va être meilleur.
Messieurs, vous savez, quand on travaille comme ça dans les séries finales de la Coupe cette année, on a le nez qui est rivé dans ce qui se passe dans l'actuel. Et je tiens à remercier Michel Tremblay, qui donne un coup de main incroyable au balado Sortie de zone, qui m'envoie une petite phrase par courriel aujourd'hui, qui me dit « Hey, je voulais juste te dire, amène ça au gars. » Si Patrick Roy avait été un petit peu plus patient, il n'aurait pas été assis à Cap-Breton avec un poulet à ses genoux. Il serait en train de coacher pour la finale de la Coupe Stanley. Philippe, t'en penses quoi, toi?
Ben d'abord, je pense que Patrick Roy a jamais été reconnu pour sa patience.
Non, t'as
alors
raison.
Dire si Patrick Roy avait été patient, c'est tellement pas le style de Patrick, et je pense que ça fait son identité à lui. Il a tout le temps été impatient de gagner, il a été impatient de gravir les échelons, ça fait partie de lui. Et ça fait quand même longtemps là, ça fait quoi, c'est en 2016 je pense, ou même
c'est ça. Alors la démission en 2016.
Ouais, 2016. 2016, là, au mois d'août. Là. Alors, ça fait quand même plusieurs années. Puis je pense qu'après l'Avalanche, j'avais eu une saison plutôt difficile.
Fait qu'il
y
avait eu le temps de quitter la limite.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, mais tu sais, c'est sûr qu'avec le recul, Patrick doit un peu se poser une question parce que, bon, manifestement, il devait pas s'entendre magnifiquement avec Joe Sakic là, pour partir de la façon dont il l'a fait. Et puis, bon, Joe Sakic est encore là, puis Joe Sakic s'impose comme un excellent directeur général qui a réussi à bâtir une équipe absolument formidable. Patrick, lui, pendant ce temps-là, il espère encore avoir sa chance pour retourner dans la Ligue nationale.
Penses-tu qu'il espère encore?
Oh, moi, je suis certain.
J'ai l'impression, dans ses derniers commentaires, quand il a dit ouais. « Qu'est-ce que je fais là? » Il ouais. a comme même donné cette ouais,
moi, abdiqué. Non. Moi, je pense que les gens de hockey, ils espèrent tout le temps. C'est comme les politiciens. T'as ça dans le sang. Je regarde un Bernard Drainville, animateur et tout. Oups, il retourne en politique. Il a ça dans le sang. Tu vois Claude Julien aujourd'hui, il attend le téléphone. Les gars, ils aiment ça. Là. Ils carburent à ça. Puis c'est comme ça qu'ils s'accomplissent, puis c'est comme ça qu'ils sont fondamentalement heureux malgré les difficultés. Moi, je suis convaincu qu'un gars comme Patrick espère encore. Ouais.
Hey, je veux savoir, je vais aller à Stéphane après, mais Guillaume, crois-tu que le fait qu'il ait quitté comme ça, c'est quoi, un mois avant le début du camp d'entraînement, tu penses-tu que ça a marqué la fin de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey?
Ben, je veux dire, j'ai le goût de dire oui 6 ans plus tard avec le recul. Je commence à avoir le goût de dire oui parce que, je veux dire, un gars qui a la réputation de Patrick Roy, un gars aussi, tu sais, oublions pas, tu sais, oui, ça a mal fini, mais l'année qui est arrivée avec l'Avalanche, il a donné tout un électrochoc à cette équipe-là. Il a gagné le Jack Adams. Donc, tu sais, je vois pas sinon pour quelle raison il y a aucune équipe qui s'est pas dit à un moment donné, hey, je vais donner une deuxième chance à Patrick Roy. Peut-être que dans un deuxième mandat comme coach dans la Ligue nationale, ça va bien aller, puis tu sais, on va avoir comme le meilleur côté de lui, mais il va avoir travaillé sur ses défauts un petit peu, tout ça. C'est vraiment la seule raison, moi, que je trouve, qui explique pourquoi Patrick Roy n'a pas eu, un nouvel emploi dans la Ligue nationale, parce que franchement, je avec la réputation qu'il a, c'est sûr que tôt ou tard, le téléphone aurait dû sonner.
Ouais, Steph, as-tu un mot à dire là-dessus? Parce que t'es un gars de hockey, et j'imagine que toi aussi, tu veux retourner dans la Ligue nationale. Quand t'entends Patrick dire, tu sais, t'es dans l'autobus à Cap-Breton, ouais. Puis j'ai du poulet à ses genoux, qu'est-ce que je fais ici? Écoute,
c'est certain. J'ai aimé sa déclaration-là, et puis c'est certain que c'est vrai. Mais écoute, je pense qu'il peut revenir encore. J'en suis certain qu'il espère encore un appel. J'en suis certain parce que t'as tout le temps cette énergie-là, t'as tout le temps cet espoir-là, t'as tout le temps, comme Phil disait, c'est dans toi d'être compétitif, puis d'être dans ce milieu-là, même si des fois, il y a des soirs, tu dis, qu'est-ce que je fais ça, puis je peux te dire, je me l'ai dit souvent, moi aussi. Et puis, moi, je pense que ce gars-là, il est pas fini. Au niveau junior, je pense qu'il a fait le tour du jardin, mais je suis certain qu'il est en ce moment sur la liste de quelques équipes qui n'ont pas d'entraîneur, j'en suis certain.
OK, Stéphane, tantôt, m'est arrivé avec une torieuse en rappelant ma mauvaise prédiction. Je vais t'en poser une torieuse, mon Stéphane. Est-ce que ton téléphone sonne? Est-ce que ton téléphone sonne pour un club pour la Ligue nationale de hockey?
Je sais pas encore. Non, honnêtement, c'est encore de bonheur au niveau. Il y a des entraîneurs qui viennent juste d'engager des nouveaux head coach. Puis il y a des entraîneurs aussi, il y a des équipes aussi qui est là avant de passer à cette étape-là. S'il y a des adjoints ou des entraîneurs de gardiens de but, on est encore de bonne heure dans ce côté-là.
Bon, ben garde, c'est 1-1, mon cher ami Stéphane. Et voilà, c'est 1-1. OK, hey, on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Puis au retour, j'espère que vous êtes prêts. Sortez vos mitaines, parce que ça va brasser ici. Avec la fin du contrat de chez Weber qui s'en va du côté de Vegas, on doit fermer le chapitre. Et là, la question commence avec Philippe Quentin. Philippe, finalement, est-ce que c'est une bonne transaction P.K. Subban chez Weber? On fait une courte pause, au retour, on en parle. Restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
On est de retour au balado sortie de zone, épisode 58, saison 3. Là, je devrais parler comme ça parce que j'ai mis un mouthpiece parce que ça va brasser dans les prochaines minutes. Avec Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Bon, messieurs, avant d'aller à la pause, je vous disais, le départ du contrat de chez Weber s'est fait du côté de Vegas. Donc, on doit conclure ce chapitre. Et là, je commence avec Philippe Quentin, puis les gars, soyez prêts à intervenir. Philippe, finalement, c'est une bonne transaction piquée pour chez Weber?
Transaction très ordinaire, à mon avis. Et si on regarde ça saison par saison, la première saison, ben là, on n'en parle même pas de l'échange. Piqué Subban est en nomination pour gagner le trophée Norris, un des trois finalistes. Il n'a pas gagné, mais il est en nomination. Les Prédateurs de Nashville s'en vont en finale de la Coupe Stanley, qu'ils perdent contre les Penguins Pittsburgh, mais ils se rendent là. Beaucoup de gens ont dit Subban n'a rien à faire avec ça. Ben non, mais les Prédateurs n'étaient jamais allés en finale. En fait, ils n'avaient jamais gagné plus qu'une ronde auparavant. Là, ils arrivent, puis ils jouent 20 minutes par match, puis ils ont beaucoup, beaucoup de succès. Alors, je pense que ça m'apparaît assez clair, le verdict de cette première saison-là. Pendant ce temps-là, le Canadien est éliminé en première ronde de façon assez rapide par les Rangers de New York. Deuxième année, je donne encore l'avantage aux Prédateurs de Nashville. Clairement, pour moi, le Canadien n'a pas participé aux séries éliminatoires. Puis on a vu que le Canadien n'a pas réglé, malgré la présence de Weber, ses problèmes. C'est quand même 2 ans, je pense, après son arrivée, que Marc Bergevin nous dit tout à coup « Hey, on a un problème d'attitude dans cette équipe-là ». Moi, je pensais que Weber, avec son grand leadership, fait qu'il soit un ami capitaine, je pensais qu'il allait en régler une partie. Mais ça n'a pas réglé. Les problèmes étaient probablement plus profonds. Par la suite, Subban a beaucoup ralenti. Il faut le reconnaître. Weber a été blessé pendant... Il n'a pas joué énormément. Le Canadien a continué de tirer de la patte. Se qualifie pour les séries en 2020, mais en étant 24e en raison de la COVID. Il y a eu l'année, clairement, l'année où le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley. Là, c'est clair que le Canadien a gagné l'échange cette saison-là. Mais quand je regarde ça, l'ensemble de la transaction, finalement, elle a peut-être eu un peu moins d'impact sur les deux équipes que ce qu'on pensait à l'époque. Parce que Subban, ça ne s'est pas inscrit dans le temps. Il y a eu 2 bonnes saisons, puis après ça, il a ralenti. Weber, bizarrement, tout le monde disait qu'il allait être bon au début, puis il allait ralentir pour la suite. C'est probablement vers la fin qui a été le plus important. Mais je pense pas que c'est un gars qui a transformé le Canadien.
OK, fait pour toi, transaction ordinaire.
Ouais.
OK, parfait. Dans le coin rouge, maintenant, on va aller voir Stéphane White. Stéphane, toi, transaction ordinaire, cette transaction de Piqué contre chez Weber?
Très, très bonne transaction. Très, très bonne pour le Canadien de Montréal. Et puis... Au niveau du leadership, là, écoute, là, c'est une chose que moi, là, il m'a très impressionné. Et puis, je pense qu'il a été bon pour l'équipe. Au niveau du leadership, c'était la grosse affaire qu'on recherchait. Et puis, écoute, c'est sûr que il a pas tout changé chez Mavazan. Affaire, il y a eu une très bonne impact dans notre équipe. Et puis même au niveau des stats, tu sais, je veux dire, chez a roulé 5 ans depuis cette transaction là. Puis Piqué a joué 6 ans. Et puis la seule affaire avec chez qui était décevant, c'est le nombre de blessures. C'est la seule côté où ce que ça a été décevant, parce que le reste, malgré qu'il a joué à peu près il a joué 275 matchs, Piqué 400, mais Weber a quand même 58 buts. Ça, c'est 6 buts de plus que Piqué, là, avec le nombre, avec un match, 125 matchs de plus. Et puis, juste au niveau des plus et des moins, ça se compare pas. Piqué est de loin dans les moins. Et j'ai chez Weber qui est de loin dans les plus, dans les 6 derniers-là. Et puis, au niveau des séries, les deux ont joué le même nombre de matchs, 41 sur un bord et 38 sur l'autre bord. Donc, mais moi, c'est plus au niveau du leadership que j'ai adoré cette transaction-là. Puis je pense que personnellement, moi, après 6 ans, si on me demandait de refaire cette transaction-là, je le ferais sans aucune hésitation.
OK, Stéphane, là, je veux pas te mettre dans le pétrin, mais je sais que tu es un gars intelligent puis tu vas trouver le moyen de nous parler. Piqué, étais-tu si fatigant que ça dans le vestiaire? C'était-tu si agaçant que ça? Raconte-nous pourquoi on disait tant qu'il pouvait déranger?
Moi, j'ai adoré Piqué. Je l'ai adoré, mais c'est comme... Piqué, c'était pas un leader dans l'équipe, mais il faisait pas mal. Puis je dis pas ça en termes négatifs que c'était pas un leader. C'est un gars qui aimait se faire voir. C'est un gars qui aimait l'attention, qui adorait l'attention. Et puis... sauf que comme équipe, qu'est-ce que tu veux? C'est du leadership. C'est chez Weber, puis c'est rien compliqué, Subban. Piquet, j'ai tout le temps dit, si tu veux vendre des tickets, là, garde Piquet. Si tu veux gagner la Coupe Stanley, va chercher Weber. C'est la différence entre moi pour les deux.
OK, parfait. Philippe, tu veux avoir d'autres répliques là-dessus?
Ben, moi, tu sais, je comprends.
Ça te sent pas, Guillaume, ça s'en vient.
Je comprends tout ce que dit Stéphane, mais je me demande toujours comment ce leadership-là s'est matérialisé. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que quand tu regardes la fiche de l'équipe, Stéphane, là, ça a été pas mal catastrophique.
Price était blessé, par contre, dans ces saisons.
Ben oui, je comprends. Mais tu sais, on peut pas dire que Weber, avec son leadership, a transformé le Canadien. C'est un peu à ça. Tu sais, revenons à la transaction. Quand la journée où on a fait la transaction, Marc Bergevin a annoncé la transition. On a beaucoup joué là-dessus, sur le leadership. Puis ce leadership-là, ça allait transformer le Canadien. Ça donnait quoi? Ça donnait une ronde en 2017, pas de qualification en 2018, pas de qualification en 2019, qualification pas méritée en 2020. Le Canadien était 24e. Je veux pas le blâmer, je sais, le hockey, c'est une équipe et tout, mais moi, je pense qu'on a monté chez Weber et puis qu'on lui a donné, pendant son séjour ici, une importance qu'il avait peut-être dans l'équipe à quelque part, mais je pense pas que ça crée beaucoup de changements chez le Canadien.
Et,
j'ai trouvé ça bizarre, juste compléter là-dessus. Moi, j'ai comme l'impression que le Canadien est devenu plus une équipe capable avec du leadership quand ils sont allés chercher Corey Perry. C'est bizarre. Moi, personnellement, c'est pas étonnant que le Canadien soit rendu en finale cette année-là. C'est étonnant, oui, mais avec l'arrivée de Perry, je trouve ça.
Vas-y, Stéphane, réplique, vas-y.
Oui, mais moi, écoute, t'as raison à propos de Corey Perry, mais ça était comme, enfin, chez, il n'est pas tout seul là-dedans, dans ce mot juste de vestiaire-là. Et puis, Corey Perry a été une très, très grosse addition où ce que ça l'a. Chez Weber tout seul, là, c'est très difficile. N'importe quel leader, c'est très difficile quand t'es tout seul. Et puis, Corey a adoré ça. Mais moi, j'ai vu tellement un impact avec chez Weber à l'intérieur. Surtout au niveau quand il prenait soin des jeunes. Et puis, il s'est occupé de Romanov, il s'est occupé de Suzuki. Et puis, il y avait une grosse impact où ce que si tu travailles pas, de chez Weber qui va t'arriver dans le portrait puis il va dire, hey, c'est pas de main, ça marche, ici. Et puis ça, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire.
OK. Bon, Guillaume, c'est à ton tour. T'es encore là.
Je comprends que, comme Phil, je comprends que ça ne s'est pas matérialisé avec des victoires dans les séries puis des victoires avec des participations aux séries comme qu'on voulait. Je comprends ça.
Ouais.
Mais puis ça, encore là, c'est rien enlevé à Piqué. Je crois pas qu'on aurait été une meilleure équipe avec Piqué, loin de là.
OK, Guillaume, c'est toi qui tranches le débat. Vas-y.
Ben, moi, premièrement, je trouve que, contrairement à ce que je suis pas d'accord avec ce que Phil disait au début sur l'impact minime, là, en tout cas pas aussi gros qu'anticipé de ces transactions-là, parce que je trouve que dans la Ligue nationale aujourd'hui, que ces deux équipes-là, chacune rendue une fois en finale, sachant à quel point que c'est rendu dur de se rendre en finale dans une ligue maintenant à 32 équipes, tu sais, ces deux équipes-là ont été en finale une fois, et dans les deux cas, Weber et Subban ont joué vraiment un rôle très important là, cette année-là. Donc, tu sais, juste là, moi, je trouve que c'est majeur. Tu sais, tu fais une transaction, ça donne une finale, c'est une grosse transaction en partant. Et ben c'est ça, moi je trouve qu'ils ont eu un gros impact là. L'autre chose pour Weber qu'il faut pas oublier, c'est oui, l'année en 16-17, effectivement, le Canadien avait eu une bonne saison, mais ça avait fini au premier tour. Mon souvenir cette année-là, par contre, par exemple, premièrement, Weber avait été un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale à sa première année. C'est sûr que ça se voyait moins que tout ce que Subban faisait, mais il avait vraiment eu toute une saison. Et d'ailleurs, il avait terminé sixième pour le trophée Norris. Donc, il avait eu toute une saison cette année-là. Et je me souviens également qu'en série, c'était pas à cause de Weber que cette équipe-là avait perdu, mais il avait vraiment été un des meilleurs joueurs du Canadien en série. Cela dit, ça demeure chez Weber, c'est pas Kyle Makar, c'est pas un joueur qui va vraiment transformer une équipe sur la patinoire comme ce qu'on voit avec Makar en ce moment là, c'est pas du tout le même style. Mais je veux dire, il avait joué franchement de bonnes séries, puis il a toujours été très bon en série pour le Canadien. Donc tu sais, moi là-dessus, j'ai tendance à croire quand même que la transaction était légèrement à l'avantage du Canadien. Mais je veux dire, tu sais, Nashville a quand même trouvé son compte en atteignant la finale. Oui, il a fallu gérer après ça la décroissance de Subban et gérer également une transaction. Mais tu sais, je pense que les deux équipes ont quand même relativement trouvé leur compte là-dedans.
Moi, je vais vous dire, là, je suis d'accord par portion avec Philippe, je suis d'accord par portion avec Stéphane et Guillaume. La seule chose que je trouve dommage dans l'histoire de chez Weber, c'est que je pense que le Canadien a acheté une réputation. Le gars avait une réputation à travers la Ligue nationale de hockey et je suis pas convaincu qu'on a eu le joueur à la hauteur de la réputation qui était. Le gars a été hypothéqué par les blessures au cours de sa carrière et on a eu un gars qui était amoché qui s'est amené avec le Canadien. Ce qui est dommage...
Ben c'est ça, ben justement, j'allais dire, tu sais, dans le fond, on a vu chez Weber en pleine santé seulement un an, c'est-à-dire la première année, et après ça, 17-18, dès le premier match, il reçoit le tir sur le pied et tout a déboulé à partir de là. Donc, tu sais, ça a été très, très mal géré. Là, puis ça, c'est en partie, je pense, la faute à Weber de peut-être s'être obstiné à jouer là-dessus. En partie la faute du Canadien qui a peut-être pas. Ben, c'est en tout cas ça. Les questions médicales, c'est toujours très dur à dire, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un problème là parce qu'une carrière devrait pas dérailler comme ça simplement à partir d'un tir bloqué dans un match au mois d'octobre. Mmh. Donc, tu sais, et puis, ben, c'est ça, on le sait qu'à partir de ce moment-là, ça a tout le temps été plus difficile côté santé là, pour Weber.
Et si je veux juste ajouter quelque chose, ce que je trouve dommage dans le cas de Piqué, c'est que sa carrière n'a pas été à la hauteur de son talent. Parce que ce gars-là a périclité après son passage avec les Prédateurs de Nashville et maintenant, il n'est plus l'ombre de lui-même. Je trouve que dans les deux cas, on n'a pas vu le meilleur des deux joueurs. Tu sais, le meilleur de Weber a été à Nashville, puis le meilleur de Piqué a été avec le Canadien. Après, ça a pu être la même chose. Fait que dans les deux cas, mm-hmm. je trouve que ce sont des gars qui se sont pas éclatés dans leur nouveau domicile respectif. Je trouve qu'en quelque part, c'est ça qui est dommage pour les deux organisations.
C'est pour ça que je dis que moi, la transaction a peut-être pas eu l'impact qu'on pensait. Cela dit, je reconnais que Guillaume a un sacré bon point en disant que les deux équipes, avec leurs nouveaux joueurs, entre guillemets, sont allés à une finale de la Coupe Stanley et dans les deux cas, Subban sa première année avec les Prédateurs, Weber dans ce qui a été évidemment sa dernière la véritable saison avec le Canadien, les deux ont eu un impact. Alors de ce côté-là, je comprends très bien ce que veut dire Guillaume, puis j'abonde, mais je pense un petit peu comme toi aussi. Mais on savait ça aussi quand Weber est arrivé, qu'il était plus vieux, qu'il avait reçu...
On savait pas que Piqué était pour péricliter comme ça.
Non, mais ça a pris deux ans. Il a donné deux ans. Il a donné deux bonnes années.
Pas supposé donner deux ans.
Non, je suis d'accord avec toi.
Je suis déçu de Piqué.
Ben oui, moi aussi.
J'aurais aimé ça que ce soit meilleur encore.
C'est quoi qui explique qu'après la deuxième saison de Piqué, même s'il y a eu des bonnes saisons, Nashville a tout fait pour s'en débarrasser. Il l'a offert à tout le monde.
Selon toi, qu'est-ce qui explique ça?
Je vous le demande.
Ben, tu dois avoir une réponse.
Non, j'ai pas de réponse. Mais
Alors, on vous donnera la version non censurée dans un prochain.
Non, mais je veux dire, c'est quand même, tu sais, si Piqué, puis encore là, tu sais, nous, on n'a jamais pensé à échanger Weber parce qu'il nous donnait ce qu'on voulait, c'était ce fameux leadership-là qu'on avait tellement besoin. À Nashville, après deux saisons, je veux dire, il était à échanger coûte que coûte, là. Donc, ouais. Il y a des questions à se poser, là.
OK. Je peux-tu vous en dire une? Je vais t'en dire une, Stéphane. Vous avez vogué sur l'histoire du leadership un peu en pensant que c'était de la pensée magique. Mais tu sais, en quelque part, si ton gardien de but est blessé, t'as beau avoir le meilleur leadership au monde, ça marche pas, là. Tu sais, Price, quand il était blessé, t'as beau avoir le plus grand leader au monde, là.
Complètement d'accord.
Ça marchera pas plus, là.
Moi, c'est-tu ce que je trouve le plus drôle, là? C'est que dans les années où Subban était là, le Canadien a eu quand même un peu de succès, là, tu sais, participer aux séries éliminatoires, deux rondes, 2014, si Price n'est pas blessé en demi-finale contre les Rangers, qui sait ce qui aurait pu se produire. Puis pourtant, on disait que dans le vestiaire, il manquait quelque chose. C'est qu'il y avait un petit problème, on savait pas trop, il y a une année, on n'a pas nommé de capitaine, on savait pas leadership. Là, après, Weber arrive, et là, tout ce que j'ai entendu dire, moi, Stéphane, là, pendant des années, là, c'est que dans le vestiaire, là, ça marchait tellement bien, tout le monde s'entendait bien, Weber était un grand leader, les gars s'entendaient bien, il y avait de la camaraderie et tout. Résultat, pas de série, ouais. 24e, la série par la porte d'en arrière.
Ça, je te dis, Philippe, c'est exactement cool, ça. Là. C'est ça, mais le leadership fait pas que tu gagnes des matchs.
Oui, mais exact, mais c'est ça, exactement. C'est garanti pas, mais ça, c'est une partie importante quand même, mais c'est garanti pas que si t'es un leader puis il est tout seul là-dedans. Mais écoute, on a repris deux, trois autres. Mm-hmm. Puis le meilleur exemple, vous l'avez parlé, c'est Corey Perry quand il est arrivé. C'était comme enfin Shea, il est pas tout seul dans ce locker, dans ce vestiaire là. Et puis toi, t'avais Carey là qui l'année passée qui a joué pratiquement toute la saison sans être blessé. Il m'a manqué seulement 2 semaines. Et puis que lui ici, bon, mais il s'est joint au groupe. Et puis là, on a eu comme le big tree là, au niveau du leadership. Mais avant, là, je voyais souvent Shea tout seul là-dedans. Là. C'était, puis t'avais Chariot l'année passée dans les playoffs qui s'est rejoint à ce groupe de leaders-là. Là, il était un groupe de leaders. Il n'y a pas un gars tout seul qui va faire ça. Il n'y a pas... C'est pas Shea Weber tout seul qui va tout changer ça, mais ça part avec des gars comme Shea Weber.
C'est ça. Mais ça te prend des joueurs. Ça te prend des joueurs.
Ça prend des gars enchantés aussi, puis ça prend des bons joueurs.
Puis en plus, c'est que la philosophie du Canadien a été de bâtir ça sur Carey Price. Fait que ça prenait et Carey Price et quelques bons joueurs parce que sinon, ça fonctionne pas. OK, hey, les gars, avant qu'on fasse une pause, juste un tour de table rapide. Puis je suis sérieux quand je vous dis ça. Piqué, 2 millions par année. Joueur autonome, est-ce que vous dites oui? Est-ce que le Canadien dit oui à Piqué Subban, 2 millions par année, joueur autonome? Guillaume?
Je pense que non, je vois pas. Je vois juste pas ça se passer. Je pense pas que Kent Hughes va se tourner vers lui. L'équipe qui va le faire, par contre, oui, tout à fait, puis il peut être un bon complément quelque part, mais tu sais, je ne sais pas si c'est nécessairement la transaction, l'embauche que je ferais si j'étais le Canadien. Sachant en plus de toute façon que t'as beaucoup de jeunes à faire jouer en défense dans la ligne bleue. Donc, non, moi, si je suis le Canadien, je passe mon tour, mais comme pièce complémentaire ailleurs, pourquoi pas?
OK, je continue avec Philippe dans quelques instants. Je veux juste ajouter, si t'as des jeunes, si tu sais qu'il va y avoir des boulettes, t'as besoin de quelqu'un qui va prendre le spotlight pour enlever un peu de chaleur sur tes joueurs, me dis bah. Pourquoi pas? Philippe, t'en penses quoi?
Non, moi, je crois pas beaucoup à ça, le retour dans une ville, surtout un joueur comme Piqué Subban, qui a marqué à sa façon, là, son séjour avec les Canadiens était très populaire. Bon, on sait, ça a été difficile avec la direction, des négociations de contrat tumultueuses, ça a failli se régler en arbitrage. Finalement, la dernière journée, on lui donne un contrat de 8 ans. Est-ce que tout ça a fait l'affaire de Marc Bergevin à l'époque? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Alors, le passé est trop significatif, à mon avis, pour retourner avec Piqué Subban à Montréal. Peut-être ailleurs, mais moi, non.
OK, Stéphane?
Oui, mais pas Montréal, mais c'est certain qu'il va se trouver un Piqué à 2 millions par année ou ce qu'il joue dans un rôle de soutien dans une équipe mature. Oui, demain matin, j'ai aucun problème avec ça. Mais à Montréal, je pense qu'on est rendu ailleurs à ce niveau-là. Et puis, à nouveau, des jeunes qui s'en viennent. Et puis, donc, laisser la place aux jeunes. Non, je crois. Surtout que Piqué, là, on le verra encore comme le Piqué du temps à Montréal. Les gens, ils trouveraient ça peut-être difficile de voir le Piqué d'aujourd'hui. Puis, on dirait tout le temps, dans le temps, Piqué est assis. Puis, non, je pense que c'est le temps de tourner la page. Et puis, je suis d'accord avec Guillaume et Philippe.
OK. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose?
Moi, j'allais juste dire que ça serait drôle avec les Kings pour une réunion de Marc Bergevin.
Déjà, il y a la réunion Bergevin-Dano à Los Angeles. Pourrait compléter avec Subban.
OK, messieurs, on va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va parler de John Tortorella, tel un chat. Il a 48 vies. Il sera maintenant entraîneur avec les Flyers de Philadelphie. On en parle au retour. Restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
On est de retour au balado sortie de zone, évidemment, avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Stéphane White pour le 98.5. Messieurs, là, nouvelle là, qui est tombée tout récemment, John Tortorella qui s'en va avec les Flyers de Philadelphie. Pete DeBoer, c'est supposé être à Dallas. On parle même d'un contrat de 4 ans, 4 millions de dollars par saison. C'est Pierre Lebrun qui a sorti ça, c'est pas annoncé officiellement. Cassidy s'en va à Vegas, là, et que la chaise, là, quand les chaises commencent à se remplir. Dans un premier temps, Guillaume, Tortorella, c'est comme un chat, il a 48 vies, ce gars-là, il est capable de se trouver de l'emploi n'importe où. Je veux tes commentaires là-dessus.
Je suis pas sûr de comprendre, honnêtement. D'un côté comme de l'autre, les Flyers arrivent clairement dans un creux de vague et puis bon, je veux dire, on essaie de relancer cette équipe-là. Je pense que ça va prendre une certaine forme de reconstruction. Donc, je ne sais pas si d'une part, John Tortorella est le bon entraîneur pour ça. Et de l'autre côté, je ne comprends pas l'intérêt de John Tortorella d'aller coacher les Flyers de Philadelphie. Moi, dans ma tête, un entraîneur avec son expérience, avec tout ce qu'il a accompli jusqu'ici et avec tout l'argent qu'il a fait jusqu'ici, là, je pense pas qu'il court après l'argent. Ben, je me dis que ça serait un coach qui prendrait plutôt une équipe qui est beaucoup plus proche d'être à maturité, qui est beaucoup plus proche de gagner. Donc, c'est pour ça que je me gratte un peu la tête avec cette embauche-là. Alors, ben honnêtement, j'ai de la misère à l'expliquer.
Stéphane, en plus, John Tortorella a dit « Je serai intransigeant dès mon arrivée avec les Flyers. » Fait que tout le monde a d'affaire à être droit parce que Tortorella, lui, est prêt à sortir le fouet. Là.
Exactement. Puis écoute, si tu veux un électrochoc dans une équipe, je pense que c'est le gars parfait. Il l'a fait partout. La seule affaire avec John Tortorella, c'est que c'est un coach qui, je crois pas qu'il peut diriger le même groupe pendant un 6, 7, 8, 9 ans. Et puis, mais pour un électrochoc, écoute, il a fait ses preuves partout. Il y a beaucoup de joueurs qui l'adorent. Hein? Lui, c'est tout ou l'autre. Il y a des joueurs qui sont pas capables de jouer pour lui parce que c'est trop difficile. Puis il y a des joueurs qui l'adorent parce que, écoute, ça fit direct dans le ADN. Donc, John Tortorella, encore une fois, il va arriver là, il va faire tout un job. Puis lui, il est là pour une chose, puis il l'a mentionné souvent, puis même le gérant général Fletcher l'a mentionné. Il est là pour changer la culture de cette équipe-là qui, depuis trop d'années maintenant, là, sont trop confortables comme groupe. Donc, il est là pour changer la culture. Et puis, c'est pour ça qu'il était engagé, mais c'est le bon choix.
OK. Autre coach, Pete DeBoer. Écoute, ça devrait être confirmé. Là, il devrait aller du côté de Dallas. Ouais. J'en parlais, là, 4 ans. Là, vous allez m'aider, messieurs. Qu'est-ce que les clubs de la Ligue nationale trouvent à Pete DeBoer? T'sais, c'est quoi sa qualité première? Parce que moi, j'ai comme un peu de difficulté à la trouver. Il a coaché à San Jose, à New Jersey, à Vegas. Et là, ça en va du côté de Dallas. Guillaume, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que Pete DeBoer fait en sorte que les clubs l'aiment tellement?
C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut dire un bon agent, peut-être? Je sais pas.
Je sais pas, j'ai aucune idée.
Mais cela dit, Pete DeBoer est quand même un coach qui a eu beaucoup de succès en série dans sa carrière. Ses équipes, là, cette année avec Vegas, ils ont raté les séries. C'est la première fois depuis 2014 que ces équipes rataient les séries. T'sais. Donc ça, c'est quand même pas rien. Participer à, tu sais, s'est rendu 2 fois en finale. Il s'est rendu une autre fois avec Vegas en demi-finale là, en 2020. Demi-finale l'année passée aussi contre le Canadien. Donc tu sais, c'est quand même un gars qui a pris des équipes matures parce que tu sais toutes ces finales là, que ce soit New Jersey, San Jose, les fois avec Vegas, c'était dans tous ces cas-là justement des équipes à maturité, c'est-à-dire ce dont on parlait pour John Tortorella tantôt. Ben lui, ces clubs-là qui sont matures, il les prend puis il les amène quand même près de l'objectif. T'sais. Et non, il n'a jamais gagné la coupe, mais il y a ça qu'il a prouvé. Donc, il doit avoir ça. Cela dit, bon, je pense que comme tout le monde, j'ai pas nécessairement été impressionné là, par sa gestion de Marc-André Fleury, entre autres à Vegas, puis ça fait peut-être partie des choses qui ont contribué à son départ de là-bas. Donc c'est ça. Mais je veux dire, en tout cas, je peux quand même voir avec la feuille de route qu'il y a, je peux quand même voir pourquoi que ce gars-là reçoit des adeptes.
OK, Stéphane, ouais. Dis-nous, tu étais à l'interne, tu l'as vu, tu l'as sûrement côtoyé en quelque part. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce gars-là?
Ben, il y en a pas que je sais pour ça. Pour sûr, c'est que c'est un gars qui est très, très... ses équipes sont très bien préparées, puis ses équipes sont très difficiles à jouer contre. C'est un gars qui... le système est très serré. Et puis, la seule affaire avec Pete DeBoer, c'est... Je voyais pas un bon fit avec Vegas, parce que Vegas, c'était plus une équipe où on se lance à l'attaque très rapide, transition rapide, tandis que Pete DeBoer, c'est plus, on ferme le jeu le plus possible. Il l'a très bien fait avec New Jersey, il l'a très bien fait à San Jose. Et puis, à Vegas, j'ai tout le temps personnellement trouvé que ça ne fitait pas avec le style de l'équipe qu'il y avait devant lui. Mais pour ces raisons-là, c'est un gars qui a la réputation d'être très, très bien préparé, puis ses équipes très difficiles à jouer contre au niveau là, de fermer le jeu. Donc, c'est une qualité que beaucoup de je suis convaincu, beaucoup de gérants généraux adorent.
Est-ce que Cassidy va mieux fitter que DeBoer a fitté avec Vegas, selon toi,
Stéphane? J'ai aucun doute là-dessus. On l'a vu aussi, la façon que les Bruins jouaient, surtout avec le gros trio, où c'est une équipe qui est très dangereuse en avantage numérique, très très dangereuse offensivement. Et puis, Bruce Too, c'est un gars qui peut être très dur avec ses joueurs. Mais c'est un gars qui, même comme joueur, c'était considéré quand il jouait junior comme le futur Bobby Orr avant qu'il se blesse au genou. Et puis, c'est un joueur très offensif. Puis, il a tout le temps eu cette mentalité-là d'être très offensif. On oublie encore que Bruce Cassidy a déjà été l'entraîneur à Washington, où ce que, encore là, il avait une équipe très offensive dans le temps qu'il était à Washington. Donc, c'est un gars, je pense, qui va avoir un bon fit avec l'alignement qu'il y a en ce moment à Vegas.
OK, Guillaume, Boston, Détroit, Winnipeg, Chicago, il y a encore du monde qui cherche des coachs, là.
Oui, absolument, absolument. Y a-tu
des noms qui là on a vu puis on a parlé dans le dernier balado, t'étais pas là. Luke Richardson était passé une entrevue pour Chicago. Barry Trotz a passé une entrevue pour Winnipeg. Il y a rien qui a été confirmé. Stéphane, tu croyais que Trotz pouvait être un bon fit avec Winnipeg. Est-ce qu'il y a des noms Guillaume qui se promènent un peu dans le milieu de la Ligue nationale?
Ben justement, moi je pense que Barry Trotz, tôt ou tard, va finir par avoir une job. Tu sais, il y a peut-être un jeu de domino là-dedans. Il y a peut-être une organisation ou un coach qui attend que telle chose arrive avant de s'engager, puis ça va déclencher le domino. Là, ça on le sait pas, mais Barry Trotz, je serais vraiment pas surpris qu'il se retrouve un emploi. Moi, ce qui me laisse, et là c'est pas de l'information privilégiée, mais c'est simplement ma lecture des événements là, par expérience. On est tard dans la saison morte pour les équipes qui ont changé de coach. Le fait qu'il n'y ait pas encore eu d'annonce, moi, ça me laisse croire et je ne serais pas surpris que des adjoints qui sont actuellement en finale ou qui viennent d'être éliminés en demi-finale là, soient impliqués dans les démarches ou du moins soient visés par les équipes qui cherchent un coach. Tu sais, John Cooper, ça fait quand même quelques années là, qu'il a le même entourage là, que Derek Lalonde puis Jeff Halpern avec lui. Je pense que tôt ou tard, ces gars-là, ces coachs-là, surtout que justement, c'est des coachs qui ont été dans un programme gagnant, qui ont déjà deux bagues de la Coupe Stanley, ils vont peut-être en avoir une troisième. C'est sûr que ces coachs-là vont générer de la convoitise. Je vous dirais, rappelez-vous, dans les belles années des Red Wings avec Mike Babcock, ben il y a plusieurs adjoints de Mike Babcock qui ont fini par se trouver du travail aussi, dont Jeff Blashill, justement, qui est resté jusqu'à récemment à Détroit. Donc, tu sais, c'est je pense que c'est des choses normales, puis je serais pas du tout surpris qu'une des pièces, une des pièces de domino qui pour faire tomber le reste, là, ce soit peut-être un coach qui est actuellement dans l'impossibilité de négocier parce qu'il est en finale.
OK, parfait. On surveille ça.
Il y en a un fait qui est sûr, c'est que tu as nommé Guillaume Derek Lalonde. Moi, là, je le vois là, en ce moment, je le vois à Détroit. Je suis convaincu que Steve Yzerman attend après lui. Et puis, c'est juste une question de feeling, mais Steve Yzerman le connaît. Le gars, ça fait presque 15 ans qu'il est dans le coaching, que ce soit comme assistant ou coach en chef. Et puis, je suis convaincu, moi aussi, que Steve Yzerman, c'est son homme. Et puis, du côté de Boston, mais tout indique que ça va être David Quinn, qui était avec les Rangers, un gars de la région de Boston, qui a coaché longtemps avec l'Université de Boston. Et puis, lui, je pense qu'il est dans la mire des Bruins. Donc, tout ça semble vouloir se placer. Il reste des très bons candidats. On parle de Luke Richardson à Chicago. On parle de Trotz à Winnipeg. Donc, tout s'enligne pour ça.
Ben, écoute, Stéphane, raconte-nous un peu comment ça marche, les entrevues, parce que on a su, ça fait quand même pas loin d'une semaine et demie, deux semaines, l'entretien de Luke Richardson que le Canadien a donné à permission. On n'a pas eu de nouvelles de ça. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne pas ou on négocie?
Ouais, Souvent, quand ça traîne, c'est pas bon signe. Je pense que quand ça traîne, c'est parce que on n'est pas sûr ou on a d'autres à interviewer ou n'a pas fini le processus. T'sais, quand c'est ton homme, tu sais, Vegas, ça n'a pas été long. Là. Leurs hommes, c'était Cassidy le lendemain qui a été congédié. Donc ça va vite. Moi, je trouve que quand c'est long, c'est dire les organisations sont pas sûres encore ou ils attendent encore d'autres personnes.
Les journalistes de Boston ont toujours un bon sens de l'humour parce que tu parlais de Cassidy. Les journalistes sont arrivés puis ils envoyaient sur les réseaux sociaux. Bon, le prochain coach du Canadien doit avoir des qualités inférieures à Bruce Cassidy. Bon, qui est moins bon que Bruce Cassidy? En voulant dire qu'il y avait un bon coach là-bas, tu sais, ils se sont privés d'un bon coach.
Ah ouais. Ben ouais, mais c'est drôle, hein? Moi, je faisais une liste puis là, je parle de Quinn parce que son nom revient souvent à Boston puis ça serait un fit naturel, surtout que le gars, il vient de là. Mais à un moment donné, j'ai vu le nom de Patrick Roy, puis je me dis, wow, Patrick Roy avec les Bruins.
Ça, non, ça... Patrick Roy avec Cam Neely, vas-y.
Oui, ah. mais avec la culture des Bruins, ça serait wow. Je le verrais tellement là. Mais c'est un autre bon point, ça, Jérémy. Avec Cam Neely, c'est peut-être un petit peu trop explosif.
Eh, non, mais les gars se détestaient sur la glace.
Oui, mais souvent, c'est ceux qui détestent le plus sa glace, c'est avec eux qui restent à la guerre n'importe quand.
Ah, t'as raison. Non, non, ça ferait tout un mix, Patrick Roy, avec les Bruins de Boston, c'est sûr. Hey, je veux rester sur Chicago quelques instants parce que on parle d'une période de reconstruction du côté des Blackhawks de Chicago. On arrive dans la dernière année de contrat de Kane, de Taves. Et là, on voyait sur les réseaux sociaux que DeBrincat serait sur le marché. Mais là, je me dis, mais, écoute, est-ce que c'est une bonne idée de mettre DeBrincat sur le marché? Guillaume, honnêtement, tu as besoin d'avoir du flair offensif dans ton club, même si c'est en reconstruction?
Ben, il n'y a aucun doute, surtout quand le gars a 24 ans. Je peux comprendre l'organisation de regarder pour des options pour Kane et Taves, parce que les joueurs eux-mêmes veulent pas se claquer une reconstruction, ou soit parce que tu veux vraiment changer la culture, faire une coupure, mais il faut que tu t'en gardes un peu. C'est à peu près comme si le Canadien, DeBrincat est supérieur à Nick Suzuki, mais si Kent Hughes arrivait demain et disait j'échange Nick Suzuki comme une des étapes de ma reconstruction, je pense qu'on serait tous très, très sceptiques. Je comprends là, que DeBrincat va écouler sa dernière année de contrat, tout ça, mais c'est un gars que tu peux mettre sous contrat pour 8 ans et puis qui va être un des piliers de ta reconstruction. Alors non, je ne comprends absolument pas. À moins qu'un élément au sujet de Brinkac que l'on connaît pas, mais sinon je ne vois absolument aucune raison pour laquelle Chicago voudrait amorcer sa reconstruction sans lui. C'est tellement dur, on n'a pas de le dire. La chose la plus dure au hockey, c'est quoi? C'est de marquer des buts. Ben Alex DeBrincat, c'est tout ce qu'il fait dans la vie, c'est ça, c'est marquer des buts. Là. Fait que quand t'en as un qui est capable, là, ben garde-le puis trouve d'autres qualités ailleurs, mais lui, garde-le. Là.
Comment tu vois ça, Stéphane?
Ouais, c'est clair qu'ils vont amorcer une reconstruction. Tu regardes les équipes, là, il y a pas beaucoup de gars qui sont sous contrat après la saison prochaine. Et puis, mais DeBrincat, ça ne fait aucun sens, je suis d'accord, Guillaume, ça fait aucun sens, il y a 24 ans. Et puis, faut que tu trouves le moyen de le garder. Et puis, tu veux bâtir un entour de lui. C'est sûr qu'un gars comme Patrick Kane, Jonathan Taves, qui lui reste un an à 10,5 millions, eux, ça va être un petit peu à eux à décider, bon, mais OK, on veut avoir une chance de gagner ailleurs ou peut-être de revenir après la saison prochaine à un salaire très, très minime parce qu'ils veulent finir leur carrière avec le Blackhawks. Donc, ça va être, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à nouveau là. Mais c'est clair que les Blackhawks sont en période de reconstruction. À la défense, ils ont seulement deux gars signés après cette saison. Seth Jones et puis, McCabe. Et puis après ça, mais dans le filet, ils ont zéro, ils ont deux backups dans le filet qui sont eux autres tous agents libres cet été. Donc, il n'y a aucun doute qu'ils sont en pleine période de reconstruction.
OK, messieurs, on va terminer en parlant de la Coupe Memorial. Ça débute aujourd'hui. Là, on a 4 formations, Shawinigan, St. John, Hamilton et Edmonton. Là, je vais vous en poser une petite torieuse, mes chers amis. Je vais commencer avec Guillaume. Donc, vous avez 4 clubs qui sont là, 4 clubs qui compétitionnent pour la Coupe Memorial. Est-ce qu'on doit favoriser un espoir du Canadien où on en a du côté d'Hamilton avec Cachai et Edmonton avec Goulet? Donc, on favorise un espoir du Canadien ou on favorise un club de la Ligue de hockey junior majeure du Québec?
T'as oublié Yann Michak aussi à Hamilton, en plus. Deux espoirs même à Hamilton.
Guillaume, essaie d'être politiquement correct, on t'écoute.
Ben moi, j'ai mon détachement habituel. Ça me fait pas un pli que ce soit Edmonton, Hamilton, St. John ou Shawinigan. Ça me fait pas vraiment un pli que l'une ou l'autre de ces équipes-là gagne. Cela dit, je trouve que St. John qui congédie son coach un mois avant le tournoi, tout ça, il y a des choses bizarres, disons, qui se sont passées là-bas. Donc, si on y va pour une prédiction, disons que je les sortirais de là. C'est sûr que tu regardes pourquoi pas Shawinigan, pourquoi pas l'équipe la plus près de nous à Montréal. Honnêtement, ils ont quand même, Shawinigan a quand même un beau noyau là, avec Maverick Bourque et Xavier Bourgault. C'est ça, c'est quand même un beau noyau de joueurs qui ont qui ont quand même prometteur, tout ça. Donc, tu sais, moi, donc, si j'avais à mouiller, ça serait, j'irais pour Shawinigan.
OK. Bon, hey, Stéphane, là, écoute, juste à dire, imagine-toi si Edmonton, les Oil Kings d'Edmonton gagnent. Ouais. Caden Goulet va arriver ici, on va lui lancer des pétales de rose. Ah, t'as été le MVP, viens jouer avec nous. Comment tu vois ça, Stéphane?
Ouais, ben, premièrement, moi, je me fous pas mal d'Edmonton puis Hamilton, puis moi c'est sûr je vois mon cœur avec Shawinigan, aucun doute là-dessus, et puis ça le fun. Moi on est autant que la Coupe Memorials soit au Québec, c'est tout ce qui m'importe. Saint John, j'ai pas beaucoup de sympathie, j'ai pas aimé le fait que tu congédies un entraîneur après les séries éliminatoires là. Si Saint John gagnerait, ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres propriétaires dans les années futures. Je pense pas que c'est une bonne idée. Et puis, mais écoute, pour être honnête, j'ai regardé un petit peu les séries finales. Puis pour être honnête, moi, la meilleure équipe que j'ai vue en ce moment, c'est Edmonton. Et puis avec le gardien de but, Sébastien Kosa, qui est un gardien de but de 6-6 qui appartient à Détroit, qui est très impressionnant comme gardien de but. Il va faire un très bon gardien de but dans la Ligue nationale. Mais Goulet, qui est le meilleur joueur que j'ai vu dans les séries éliminatoires, les trois ligues confondues, ça, c'est seulement ce que j'ai vu, moi, en finale. Il était le joueur le plus dominant. Puis comme tu dis, si ce gars-là gagne la Coupe Memorials, et puis en plus, qui fait bien, qui fait la différence, qui joue aussi bien qu'il a joué en finale de la Ligue de l'Ouest, oh my God, là, ça va être parti, ouais. Ça va être le sauveur, puis ça va être ci, puis ça va être ça.
D'après moi, on va le nommer capitaine ici à Montréal.
Il va être capitaine, exactement, il va être capitaine avant d'arriver, et puis non, écoute, mais ça va être le fun de voir, honnêtement, là, ça va être une belle semaine à regarder ça. Fait qu'on est chanceux cette semaine. Coupe Stanley, Coupe Memorials, c'est le bon temps de l'année pour regarder du hockey.
Bon, ben voilà ce qui complète ce balado Sortie Zone, épisode 58, troisième saison. Gros merci à Philippe Quentin. Merci à Guillaume Lefrançois d'avoir été là. Merci, Guillaume.
Merci, JR.
Merci, au revoir. Profite du soleil pour nous, mon cher ami Guillaume, du côté de Tampa Bay.
Oh, okay, oui.
Fais ça. Hey, Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Steph, d'avoir été là.
Merci beaucoup, bonne semaine.
Voilà ce qui complète cette édition de Sortie Zone. On se retrouve en début de semaine prochaine.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.